France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, 33e épisode, Terres en transe. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans ce chapitre, alors que l'avenir politique est plutôt inquiétant au Brésil, aux États-Unis où elle réside, la grande pianiste brésilienne Guillaume Arnovins continue sa brillante carrière. En 1963, Eleanor Roosevelt, qui l'admire beaucoup, l'invite à jouer à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU pour le 15e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. En mars 1966, elle est accompagnée pour la dernière fois par l'Orchestre philharmonique de New York, dirigé par Thomas Skippers. Par la suite, elle donne surtout des récitals, entre autres à Chicago, Boston, Los Angeles, Buffalo et Cincinnati. Le 30 avril 1967, après 42 ans d'absence, elle retourne en Angleterre, où elle joue pour l'inauguration du Queen Elizabeth Hall de Londres. Elle n'oublie pas le Brésil pour autant. Et dans les années 1960, elle y revient régulièrement, en général la même semaine que sa rivale Magda Taliaferro. C'est le défi habituel qu'elles se lancent l'une à l'autre, un rituel bien rodé qu'elles ont gardé depuis les années 30. Guillaume Arnovins interprétait le prélude en ré mineur opus 28 numéro 24 de Frédéric Chopin. Ce nouveau chapitre brésilien débute dans un environnement politique plutôt inquiétant. Des élections présidentielles sont annoncées pour le mois d'octobre et on craint l'arrivée au pouvoir d'un militaire de la ligne dure. C'est dans cette atmosphère plutôt angoissante que paraît l'un des chefs-d'œuvre les plus optimistes, tendres et humoristiques qui soient. Le roman de Jorge Amado, Donna Flor et ses deux maris. Dans la vieille ville de Bahia, les personnages y côtoient même des personnalités contemporaines comme le chanteur populaire bahianais Dorival Caymmi, grand ami de l'auteur, et le crooner Silvio Caldas. Tout Bahia est là. Des malandros, les voyous, au petit peuple en passant par les bons bourgeois. Après 7 ans de veuvage, Donna Fleur n'en peut plus. Son corps réclame un amant. Quand elle rencontre le mauvais garçon Vaginio, elle ne résiste pas et elle découvre l'amour-passion. Hélas, à force d'excès de toutes sortes, Vaginio meurt un soir de carnaval et Donna Fleur est convaincue qu'elle ne connaîtra plus l'extase, sauf que, par chance, le fantôme de Vaginio viendra régulièrement suppléer à l'inefficacité de son nouveau mari. Grâce à l'adaptation du roman au cinéma, le monde entier s'attachera en 1976 aux amours du beau Vaginio avec la belle Donna Fleur et la chanson principale du film « Que sera, que sera » de Chico Buarque sera un succès mondial. Ou « Que sera, que sera » qu'est-ce que ça peut bien être cet amour fou que chantent les poètes qu'on ne peut pas contrôler et qu'on ne contrôlera jamais, qui n'a pas honte et n'en aura jamais.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será, que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados. Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar?
E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno,
que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo.
Chico Buarque en duo avec Milton Nascimento dans le célèbre Que sera, que sera. Le 10 janvier 1966, Rio de Janeiro est frappé de plein fouet par un terrible ouragan. Glissement de terrain, effondrement d'immeubles, on dénombre 894 morts. L'électricité est rétablie juste à temps afin que la plupart des tramways fonctionnent pour le carnaval en février. Un carnaval où la célèbre école de samba de la Mangueira rend hommage à Villa-Lobos. Villa-Lobos, dont le poème symphonique « L'Odyssée d'une race » avait été créé au Théâtre municipal de Rio le 20 octobre 1965 sous la direction d'Isaac Karapchevski. Une œuvre censée raconter la lutte pour la création de l'État d'Israël et c'était une commande de ce pays. Silvio Barbato vient de l'enregistrer à la tête de l'Orchestre symphonique du Théâtre municipal et on découvre une œuvre écrite avant tout dans l'élan humaniste des dernières œuvres du compositeur. Rien d'anecdotique ici. C'est un appel lyrique à la fraternité entre les hommes, une œuvre qui avait une résonance très particulière au théâtre municipal ce mois d'octobre 1965. Silvio Barbato, à la tête de l'Orchestre symphonique du Théâtre municipal de Rio de Janeiro, dans le premier mouvement de l'Odyssée d'une race de Aitor Villa-Lobos. C'est le 6 octobre 1966 qu'est élu le nouveau président de la République, le général Costa e Silva. Il prend officiellement ses fonctions le 15 mars 1967. Il appartient à la ligne dure des militaires, qu'il tente cependant, une fois au pouvoir, de tempérer. Il se propose, selon ses propres termes, d'humaniser la dictature en respectant un cadre légal. À la télévision, dans le programme à Jovem Guarda, la jeune garde concurrente très rock des émissions de la Bossa Nova, l'animateur Roberto Carlos devient l'idole des jeunes. En 1966, en rentrant d'Europe, le journaliste José Carlos de Oliveira déclare « L'enregistrement par Roberto Carlos de Quero que va todo un inferno, je veux que tout ça aille en enfer, est du même niveau que les Beatles. Roberto est d'une sincérité brutale. » Effectivement, la résonance est forte, même s'il s'agit ici simplement du désespoir de celui qui aime un être cher dont il est séparé. « Rien ne m'importe plus que ton amour, le reste peut bien aller en enfer. » C'est un succès inouï dans ce Brésil, qui se prépare de plus en plus à de violents affrontements, alors que les mouvements étudiants se coordonnent à travers le pays.
Vale o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem e eu estou a lhe esperar, só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Pro
C'est en 1965, au troisième festival de musique de Caracas au Venezuela, que l'orchestre de Philadelphie a créé ce Ludo Sinfonico, ou ce jeu symphonique de Egino Krieger, ici interprété par l'orchestre national de la radio MEC du Rio de Janeiro, dirigé par Rinaldo Rossi. 1965, c'est l'année où l'architecte Oscar Niemeyer démissionne de l'Université de Brasilia et se rend à Paris, où il reçoit plusieurs prix, notamment au Musée des Arts Décoratifs, puis à la revue française L'Architecture d'aujourd'hui. C'est alors que le Parti communiste français lui propose de construire son siège, place du Colonel Fabien. Il voyage alors souvent entre le Brésil et la France, où il décide de s'exiler en 1967. André Malraux intervient auprès du général de Gaulle pour qu'il lui soit permis par décret de s'installer en France et d'y travailler comme architecte. Son ami Jorge Amado est invité à son tour par le gouvernement français au congrès du Pen Club à Menton à l'occasion du Salon du Livre à Nice, où son roman est en compétition lors d'un concours dont les jurés sont Roland Barthes, Roger Caillois, l'Argentin Manuel Puig et le Cubain Alejo Carpentier. Amado n'est pas primé, mais il en profite pour dénoncer la dictature et il y reviendra souvent par la suite dans ses mémoires notamment. Le temps de la dictature n'a pas été un gouffre, une catastrophe culturelle. La dictature a été détestable à tout point de vue, y compris par son désintérêt pour la culture, mais elle n'a pas pu empêcher que de grandes œuvres se fassent. Enrico Verissimo et moi, qui étions sans doute les écrivains les plus lus du Brésil, nous avons réussi à nous opposer à un projet de censure préalable pour les livres en faisant publier une déclaration dans les plus grands journaux. La société civile s'organise finalement très vite pour résister autant que faire se peut. Une danse du nord-est brésilien de Calimério Soares par la pianiste Beatriz Balsi. Dans les années 60, un mouvement culturel né 10 ans auparavant en Europe, intitulé le concrétisme, va connaître un nouvel essor au Brésil, en particulier grâce aux musiciens. C'est l'architecte et peintre suisse Max Bill qui l'a lancé lors de son voyage à Rio et à São Paulo en 1951. En bref, l'idée essentielle des artistes concrets, c'est d'abolir les frontières entre la forme et le fond en matière artistique afin de créer un nouveau langage, une nouvelle manière d'appréhender le monde. Au Brésil, la musique s'intéresse vraiment au concrétisme au début des années 1960, quand les problèmes sociaux s'intègrent au mouvement, avec comme grand inspirateur le français Pierre Schaeffer et sa musique qu'il qualifiait lui aussi de concrète. L'artiste brésilien le plus influencé par Schaeffer a été dans les années 1970 le flûtiste et futur jazzman Hermeto Pascoal. Avec son Quartetto Novo, il commence par s'inspirer du sertão du Nordeste jusqu'à y mêler en 1973 des bruitages enregistrés dans la campagne, c'est-à-dire un véritable poulailler sonore, réalisant ainsi en quelque sorte avec humour de la musique concrète rurale avec les animaux de la ferme en fond sonore.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
Comme le disaient les architectes Oscar Niemeyer et Lucio Costa à propos de Brasilia, la ville se regarde, la ville se vit, la ville s'imagine. Le poème concret qu'on a appelé poème objet fait de même. Un peu comme l'avait réalisé avant eux Apollinaire en disposant graphiquement ses calligrammes pour en faire des dessins qu'on pouvait regarder, lire et pourquoi pas chanter. Au Brésil, ce mouvement est né à São Paulo, capitale brésilienne de l'art contemporain, à travers ses prestigieuses biennales. Et ce sont deux frères poètes, Haroldo et Augusto de Campos, associés à Décio Pignatari, qui lancent le concrétisme brésilien. En 1967, Gilberto Mendes, qui dirige depuis 5 ans un festival de musique nouvelle à Santos, très éclectique, rentre de Darmstadt en Allemagne et il s'amuse avec le poète Décio Pignatari à composer une œuvre concrète, pleine d'humour, qui, contrairement aux œuvres de ses dignes maîtres Boulez ou Stockhausen, va même devenir populaire dans tout le pays. Un chœur en forme de publicité avec action scénique ad libitum. Buvez du Coca-Cola, beba Coca-Cola. Sous-entendu, rien de plus mauvais. Sous-titré, motet en ré mineur. Et les chorales continuent aujourd'hui encore à interpréter cette œuvre qui ne se prend pas au sérieux. Elle est ici interprétée en Argentine par la chorale de la région de Comahue, au nord de la Patagonie.
Beba Coca-Cola.
Pas facile à digérer ce Coca-Cola brésilien de Gilberto Mendes, dirigé ici par Daniel Costanza en Patagonie. Dans les années 1970, Gilberto Mendes est engagé comme professeur de composition au Brésil et aussi aux États-Unis dans plusieurs universités comme celle du Wisconsin et celle d'Austin au Texas, tout en continuant à diriger son festival de musique nouvelle au port de Santos, réputé pour la diversité de sa programmation. Toujours avide d'expériences nouvelles, Mendes critique durement les héritiers de l'école de Darmstadt, trop enfermés, dit-il, dans leur idéologie et leur auto-idolâtrie. Dans les années 80, il participe avec John Cage et Stockhausen au projet d'un pianiste américain pour la International Tango Collection, qui a demandé à des compositeurs de musique sérieuse d'écrire des tangos de 3 minutes au maximum. Gilberto Mendes, encore communiste à l'époque, en écrivant, qui rend hommage aux trois pères, los tres padres, du mouvement sandiniste au Nicaragua. C'était de nouveau la pianiste argentine Beatriz Balsi dans ce tango de Gilberto Mendes. En 1967, le cinéaste Glauber Rocha présente son deuxième film, Terre en transe, au Festival de Cannes, où il est nominé pour la Palme d'Or. Le cinéma novo ou brésilien conforte là sa suprématie dans le cinéma latino-américain de l'époque par la force de son propos, alors que le pays est sous le joug du pouvoir militaire. Curieusement, le gouvernement brésilien, peu soucieux de culture, il est vrai, n'a pas réagi. Seule l'Église a tenté en vain de faire interdire le film au Brésil. Ce n'est que plus tard, en 1971, que Glauber Rocha sera contraint de s'exiler. On se rend compte aujourd'hui à quel point Rocha est un visionnaire dans Terre en transe, un film aux allures d'opéra, souvent grandiloquent et où la musique est omniprésente. Il situe l'action dans un pays imaginaire appelé Eldorado, où se succèdent les coups d'État, les pouvoirs usurpés, les trahisons à un supposé idéal de justice et d'ordre. Et il condamne, comme dans son premier film, les gouvernements autoritaires et populistes, quelle que soit leur couleur politique. Des gouvernements dont les dirigeants utilisent souvent l'appui d'intellectuels ou d'artistes renommés, comme dans le film, le poète Paulo Martins, afin d'asseoir un pouvoir de plus en plus totalitaire. Outre les musiques de Verdi et de Carlos Gomez lors de scènes filmées au Théâtre municipal de Rio, Glauber Rocha, comme dans son premier film, utilise dès le début et à la toute fin la musique de Aitor Villa-Lobos, en l'occurrence le premier mouvement de ses Bacchianas numéro 3 pour piano et orchestre, les plus dramatiques. À la fin du film, le poète Paulo Martins ne parvient à dépasser l'horreur et le dégoût que dans la mort et le sacrifice.
Thank you.
Le premier mouvement des Baquianas Brasileiras numéro 3 de Heitor Villa-Lobos, Nelson Freire au piano, l'Orchestre Symphonique de São Paulo dirigé par Isaac Karapchevski. Et où en est l'histoire de la musique populaire brésilienne? À partir de février 1967, elle prend soudain un nouveau tournant. Un jeune chanteur de Bahia, très audacieux, au beau visage émacié, entre en scène face au jury et aux spectateurs sur le plateau de la télévision Record de São Paulo dans une salle bondée. Il s'appelle Caetano Veloso. Il s'était déjà fait connaître dans une émission de télévision de variété. Et ce soir-là, il va chanter « Alegria, Alegria, de la joie, de la joie ». Il est accompagné par le groupe de rock argentin The Beach Boys, qui accompagnait d'habitude les chansons yéyé dans l'émission rock de la Jovem Guarda sur la même chaîne. Ce qui, dans ce festival de la musique populaire brésilienne, a des allures de sacrilège. Non seulement Caetano joue de la guitare électrique, mais en plus, il chante avec un groupe étranger, et pire encore, argentin. Un des membres du jury déclare même qu'il ne s'agit pas là de musique brésilienne. Dans le public, les huées se joignent au viva. La ville entière est divisée. On se croit revenu au temps des scandales modernistes à São Paulo dans les années 20. Alegria, Alegria, c'est Caetano Veloso flânant dans les rues de Copacabana à Rio de Janeiro, une promenade qui prend un aspect de métaphore et qui invite à vivre la liberté sans limite, hors des conventions. Cela ressemble fort déjà à un manifeste précurseur du mouvement tropicaliste. C'est cette chanson qui a rapproché Caetano des poètes concrets et du musicien Gilberto Mendes. Au milieu du scandale, la chanson obtient tout de même le 4e prix. Caetano Veloso s'est fait un nom et le public l'acclamera bientôt. Et où vaut, je me balade contre le vent. Dans les kiosques, les magazines parlent de la bombe et de Brigitte Bardot. Et moi, je me prends un bon Coca-Cola. Et où vaut, je marche sans carte d'identité et avec rien dans les poches.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Et voici qu'à Copacabana, c'est Ulysse qui fait du surf avec James Joyce et Dorothy Lamour. Musique, Gilberto Mendes. Max Lifschitz dirige ici le North-South Orchestra. En 1967, au Festival international de la chanson qui se tient à Rio de Janeiro dans le stade du Maracanãozinho, la chanson Travessia, traversée du jeune compositeur noir Milton Nascimento, gagne le second prix. Puis le quatrième au Festival de São Paulo en octobre. Toujours sans un sou, Milton Nascimento l'a composé dans la chambre de sa pension de São Paulo et la gestation des paroles a été longue pour le poète Fernando Brandt. Le titre, c'est le dernier mot du livre « Diadorim » de Guimarães Rosa que Milton Nascimento et son parolier venaient de lire. « Voilà, j'ai tout raconté, dit le personnage. Je suis maintenant presque sur la rive, en traversée. Travessia. Guimarães Rosa, qui meurt justement cette année 1967. Finalement, il y est question surtout d'une rupture amoureuse. Quando você foi se embora, fez si noite em meu viver. Quand tu es parti, la nuit s'est faite dans ma vie. Alors je lance ma voix le long des routes, parce que je suis fait de vent. Je vais arrêter de pleurer, sinon j'aurai envie de me tuer.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho. Hoje faço com meu braço meu viver. Solto a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho.
Pour que le tableau concrétiste soit complet, il ne manque plus qu'un dernier larron, Julio Medaglia, qui rentre d'Europe en 1966, où il a été le camarade de Gilberto Mendes à Darmstadt avec Pierre Boulez et Henri Pousseur. Lui aussi sera bientôt compagnon de route des tropicalistes. Et comme Pascoal, il fait aussi danser un baillon du Nord-Est à trois violoncelles. Une danse avec laquelle nous nous quittons aujourd'hui. C'est avec Milton Nascimento et ce baillon du Nord-Est brésilien interprété par le Cello Trio qu'on se dit au revoir jusqu'au prochain épisode de Carrefour des Amériques, évidemment, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet à la technique Marie Lepeintre, attachée de production Nelly Portal. Une émission qu'on peut écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.